Le bonheur des jeunes parents reprit de plus belle. On s'occupait du bébé quand il le fallait et le reste du temps, c'était comme avant. Le congé maternité ennuya Nora. Elle aimait l'enfant, mais elle ne voyait pas comment lui tenir compagnie. Quand Florent rentrait du travail, la vraie vie recommençait. Le père embrassait la petite dans son berceau, gazouillait une minute avec elle et puis disait « C'est l'heure de dormir, ma chérie ». Il refermait la porte de la chambre et rejoignait son amoureuse. Ce qu'est les sages, notre Tristan. Je lui ai trouvé une place à la crèche. Quand mon congé maternité sera fini, il suffira de l'y emmener chaque matin.
6 mois, ça n'est pas un peu tôt pour la crèche?
Non, c'est comme ça que ça se passe. Nora n'osait pas dire combien elle était impatiente de mettre en place cette vie nouvelle. Ce qui la rassurait quand elle avait l'impression de manquer d'élan pour sa fille, c'était que son mari était dans les mêmes dispositions. Un homme aussi fabuleux ne pouvait pas se tromper. Par ailleurs, elle ressentait un amour véritable à l'égard de son enfant. Simplement, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire d'elle. « Ça s'arrangera quand elle grandira », se dit-elle. Les autres mois s'achevèrent. Nora fut enchantée de retourner au bureau. Tristan adora la crèche. On ne la laissait jamais seule. Il n'y avait jamais un moment où la porte se refermait sur son silence. Des femmes très gentilles s'occupaient d'elle, lui parlaient. Il y avait d'autres bébés, ce qui ne la dérangeait pas. Certes, tout n'y était pas parfait, il n'y avait ni papa ni maman. Mais à la maison, il n'y avait pas tellement papa et maman non plus. À la crèche, Tristan se sentait exister. Dormir n'était pas un devoir. Du coup, elle dormait mieux. L'une des femmes lui dit un jour « Toi, tu ne pleures jamais. Tu es incroyable. » Tristan, qui n'avait pas de langage pour lui répondre, s'étonna de ce propos. Si elle avait pu parler, elle aurait dit « Papa m'a ordonné de ne plus pleurer parce que c'est mal. » L'énigme demeura entière. Les autres enfants pleuraient, personne ne leur intimait l'ordre d'arrêter. Tristan éprouva un besoin profond de pleurer et n'y arriva pas. Le soir, quand maman venait la chercher, elle avait l'air contente de la retrouver. Tristan souriait, maman souriait. Tout était pour le mieux. Papa attendait dans la voiture. « Ma chérie !» s'écriait-il en voyant la petite. Le retour était l'un des meilleurs moments de la journée. Tristan se sentait en compagnie de ses parents. Malheureusement, le trajet durait 15 minutes. À la maison, d'infinies séparations recommençaient. Le bain, c'était avec papa ou maman, le biberon aussi. Ensuite, se produisait l'instant redouté. On la couchait et surtout, on refermait la porte de sa chambre. C'était d'autant plus terrible que Tristan entendait papa et maman qui étaient tellement ensemble. Elle n'était ni jalouse, ni envieuse, ni même possessive. Son désir ne se focalisait ni sur son père, ni sur sa mère. Elle aurait juste voulu participer à la fête. Puisqu'elle aimait ses parents, elle essayait alors de tenir le rôle qu'ils avaient prévu pour elle. Cela ne réglait pas le problème. Il semblait qu'il n'ait pas de place à lui attribuer. Dans le casting de cet étrange tournage, on avait engagé une actrice de trop. Le film ne comportait que 2 personnages, les 2 jeunes premiers. Il fallait donc que Tristan invente son rôle, ce qui, quand on a 1 an, est très difficile. Elle trouverait bien un jour. Là, comme il était trop tôt, elle se contentait d'être sage. Qu'est-ce que cela signifiait, être sage? Cela voulait dire n'émettre aucun son, ne manifester aucun souhait ni besoin, ne pas bouger. Huxley écrit que la moitié de toute morale est négative. L'éthique qui recouvrait le devoir d'être sage était négative à 100%. L'unique manière de s'en sortir de façon positive consistait à dormir. Tristan, qui s'était facilement endormi les premiers mois de sa vie, commença dès l'âge d'un an et demi à souffrir d'insomnie. Dormir était tellement obligatoire qu'elle n'y arrivait plus. La moindre pensée, le moindre bruit, la moindre fissure devenait prétexte à se dérober à la suprême consigne du sommeil. Et pourtant, elle aimait dormir. Quand elle y parvenait, elle atteignait ce graal, obéir à ses parents,
tout en comblant son propre désir. Non seulement elle s'enfonçait dans l'exquis abîme, mais en plus, elle y vivait des aventures colossales sous forme d'une activité onirique sans précédent. Quand elle se réveillait, au délice d'avoir dormi s'ajoutait l'émerveillement d'avoir vécu de tels prodiges. Elle comprit très vite que, pour empêcher le rêve de s'enfuir, il fallait se le raconter avec minutie. Ce devint sa délectable obsession. À cette fin, il lui fallait un langage approprié. Tristan décida de s'emparer des mots. Elle sentait qu'un obstacle l'empêchait momentanément de clamer ses vocables comme ses parents ou les personnes de la crèche. Mais cela lui indifférait. C'était à l'intérieur de sa tête qu'elle en avait besoin. Ce fut une période exaltante. Chaque fois qu'elle rencontrait un mot nouveau, elle l'attrapait au lasso et le joignait au troupeau qu'elle regroupait dans son crâne. Il y avait ceux qu'elle comprenait, ceux qu'elle ne comprenait pas et ceux qu'elle sentait. Elle les utilisait tous, avec une préférence marquée pour les termes obscurs qui lui servaient dans les nombreux cas où l'histoire onirique dépassait l'entendement. Quelle déception! Le jour où elle sut que, par exemple, se déplacer à tâtons ne signifiait pas se rendre en un lieu extraordinaire caché dans le noir. Heureusement, ce genre de découverte pénible n'interviendrait que beaucoup plus tard. Là, elle vivait la fièvre de l'acquisition du langage, qui ne diffère guère de celle de certains collectionneurs d'art contemporain. Si elle entendait passer un terme fabuleux comme « tabouret » ou « escarpolette », l'excitation s'emparait d'elle. « Il me le faut, celui-là ». L'acquisition supposait d'oser prononcer le mot inconnu à l'intérieur de sa bouche. Cela nécessitait une audace folle car certains vocables déclenchaient des effets magiques imprévisibles. Ainsi, la première fois où Tristan prit le risque d'articuler intérieurement le nom « coccinelle », elle frissonna de plaisir. Et quand elle alla jusqu'à s'approprier le mot « arrosoir », la volupté la terrassa. Elle devait avoir 2 ans lorsqu'elle entendit sa mère dire à son père « C'est bizarre, la petite ne parle pas encore. » « C'est normal, non ?»« Non, elle devrait dire maman ou papa. » Tristan éprouva une joie égale à sa surprise. On attendait d'elle quelque chose de magique. Une action aussi puissante que parler. Elle voulut les satisfaire aussitôt et s'aperçut que produire un son avec la voix, c'était autrement difficile que de s'en délecter en silence. Au prix d'un effort terrible, elle finit par voiser « Maman, papa ». Florent et Nora écarquillèrent les yeux. 3 minutes ne s'étaient pas écoulées entre leur échange et le prodige. C'était donc que l'enfant avait compris. D'ailleurs, elle avait prononcé pile les mots spécifiés. Ils en oublièrent de la féliciter. Au lieu de s'exclamer « Elle parle !» ou mieux encore « Tu parles !» ils s'exclamèrent « Elle comprend !» Et ce que Tristan lut dans leurs yeux relevait de l'inquiétude, comme si, désormais, ils allaient devoir veiller sur leur déclaration en sa présence. Florent finit par se rendre compte que si sa fille parlait, il ne fallait plus la désigner par la 3e personne du singulier dans la conversation. « Depuis combien de temps est-ce que tu parles, ma chérie ?» Tristan ignorait les mesures de durée et ne put répondre. Nora eut l'idée d'une autre question. « Quelle autre chose es-tu capable de faire sans nous en avoir avertis ?» La petite décela une telle angoisse dans le ton maternel que, pour la rassurer, elle inventa une naïveté. « La nuit, dans ma chambre, il y a des gens. » Les parents se regardèrent avec perplexité. Papa saisit soudain et rit. « Non, il n'y a personne, tu rêves. Ce qui se passe dans le rêve n'existe pas. N'aie pas peur. » Maman sourit. L'ordre du monde était rétabli.
les adultes détenaient la vérité et avaient le pouvoir de calmer les enfants. Du coup, on ne tarit pas d'éloges. Tu parles très bien. Bravo, Tristan. Ils s'efforcèrent d'oublier que leur fille avait attendu d'y être invitée pour leur adresser la parole. Une politesse aussi démentielle aurait dû les renseigner sur le complexe de leur progéniture. La peur de déranger. Nora avait une sœur très différente d'elle. On l'appelait Bobette. Plus personne ne savait de quel prénom cela constituait le diminutif. Bobette, à 22 ans, avait 4 enfants. Si on lui demandait avec qui elle les avait eus, elle vous traitait de facho. Elle habitait un logement social. Les 4 enfants dormaient dans la seule chambre et elle au salon. Après les avoir couchés, elle s'installait sur le canapé, devant le téléviseur. Au matin, les enfants retrouvaient leur mère endormie devant la télévision allumée, le cendrier plein et quelques bouteilles de bière vides. À Noël, on allait chez mamie. Tristan adorait cette fête. Elle aimait sa grand-mère et éprouvait une véritable passion pour sa tante. Celle-ci, surtout vers la fin du dîner, déclarait des choses extraordinaires. « Je vais acheter un cheval. » Ou « Je vous invite tous au Maroc. » On ne lui répondait pas. La petite lisait dans les yeux de ses parents une bienveillance gênée qui lui rappelait celle que ses propres propos suscitaient parfois. Tristan avait le même âge que l'avant-dernier rejeton de Bobette. On avait du mal à le croire. Jackie possédait pour unique vocabulaire le mot « ouais » dont il abusait. Ses aînés, Nicky et Alain, lui posaient n'importe quelle question et s'esclaffaient en l'entendant répondre sempiternellement « ouais ». Quand Bobette appela Cosette son 4e enfant, Nora tenta de l'en dissuader. « J'adore Victor Hugo », avait protesté la couchée. « Quel destin lui prévois-tu avec un prénom pareil ? J'ai besoin que quelqu'un passe le balai chez moi. » La grande sœur n'insista plus. La situation était sans espoir. Toujours est-il que Tati Bobette manifestait une admiration brillante pour sa nièce. Elle ne manquait aucune occasion de s'écrier « Toi, Tristan, tu as un cerveau, tu seras présidente de la République. » Bobette avait choisi Tristan comme marraine de Cosette. « Elle n'aurait que 2 ans de plus que sa filleule », avait objecté Nora. « Pas grave, je veux que ma fille ait la présidente de la République pour marraine. » Tristan était enchanté de sa filleule. Curieux spectacle que cet enfant sonne, tenant dans ses bras une nouveau-née avec des airs responsables. Mamie aussi admirait Tristan, mais exprimait cette estime de façon plus mesurée. « Toi, tu feras des études. »
« Des études, n'importe quoi. »«
Bobette, comment veux-tu qu'elle devienne présidente de la République autrement ?»«
Elle prendra le pouvoir, et puis voilà. » »«
Un coup d'État ?» intervint Florent.
« Là, c'est toi qui es facho. »
Tristan trouvait que Tati Bobette était pleine de caractère et qu'en sa présence, on existait plus fort. Quand elle rentrait en voiture avec ses parents, ceux-ci avaient sur tante Bobette des propos peu amènes.
Ça ne s'arrange pas, ta sœur.
Quel cas social. Si au moins elle avait un peu honte, elle dirait moins de monstruosité.
Non seulement elle n'a pas honte, mais elle est fière. Ta mère l'a éduquée si différemment de toi.
Elle a 6 ans de moins. C'était le petit bébé à qui on donnait tous les droits.
Après, à 14 ans, elle avait l'air d'en avoir 18.
Mieux vaut un printemps hâtif que pas de printemps.
Tristan se demandait ce qui n'allait pas dans le comportement de sa tante. En secret, elle aurait voulu la voir pour mère. Nora disait « Tu te rends compte, Tati Bobette ne cuisine pas. Quand tes cousins ont faim, elle leur déclare que le frigo est plein. Elle leur donne le biberon pendant 2 ans et ensuite, elle laisse ses gosses se débrouiller. »
Chaque fois que maman déclarait cela, la petite avait encore plus envie d'être la fille de cette créature étonnante. Pourtant, elle aimait profondément ses parents. Elle sentait en eux un déficit dont elle s'attribuait la responsabilité.
Si tante Bobette me connaissait mieux, elle serait moins enthousiaste à mon sujet, pensait-elle.